Bonjour, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Madame Texier, conseillère municipale à Tours. Pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser au sujet de la presse clandestine.
Alors je me suis intéressée d'abord à cette période, 39-45, pour différentes raisons. La rencontre de témoins et aussi le quartier où j'habite, qui est le quartier Velpeau à Tours. Nous avons travaillé à l'implantation d'une pierre de mémoire qui porte le nom, aussi bien femmes, hommes et enfants, de ceux qui sont disparus pendant cette période-là. Et pour compléter cette pierre de mémoire, j'avais rencontré les personnes ou les membres des familles de ceux dont le nom est sur la pierre de mémoire. Et naturellement, de par la connaissance, on ne peut que s'intéresser à ce qui est un moyen de communication qui est la presse.
Nous aimerions vous poser quelques questions sur la presse pendant la Seconde Guerre mondiale.
Donc, pouvez-vous nous citer des journaux ou des radios de propagande ?
En 1939, en Indre-et-Loire, il y a de nombreux journaux. Certains très importants, qui sont diffusés sur le département, et d'autres qui ont plutôt un rayonnement autour d'une ville. C'est Loche, c'est Chinon. Et ceux qui ont un rayonnement le plus important, c'est Tours Soir et La Dépêche, qui sont tirés, certains, à plus de 100 000 exemplaires. Lorsqu'il y a eu la déclaration de guerre et la signature en mai 1940 entre M. Pétain et M. Hitler, il y a eu des journaux qui ont servi de relais aux idées diffusées par le maréchal Pétain. Et pour l'Indre-et-Loire, c'est le cas de Tours Soir et La Dépêche. Et parallèlement, il y a eu des journaux qui ont été diffusés, fabriqués de façon clandestine pour diffuser d'autres idées, c'est-à-dire amener les concitoyens à redresser la tête et à savoir ce qui se passe effectivement.
Et est-ce qu'il y avait des Français qui croyaient, par exemple, à Radio Paris, qui croyaient ce qui s'y disait, alors que c'était contrôlé ?
Croire dans un écrit, croire ce qui est dit à la radio, pour se faire une opinion, il faut avoir un certain nombre d'informations préalables. Il faut avoir les outils pour pouvoir réfléchir et avoir un esprit critique. Et il y a ceux qui, par ce qu'avait été leur vie avant 1939, leur vie quotidienne, leur rencontre, savaient dire ce qu'on nous écrit ou ce qu'on nous dit, ce n'est pas vrai. Et puis à ceux qui, comme encore maintenant, par rapport à la télévision, qui pensent ce que l'on dit, c'est strictement vrai. Et l'opinion qu'on se fait dépend du bagage et des connaissances qu'on a construites avant. Il y a certains qui pensaient que ce qui était écrit dans les journaux de collaboration, tout était vrai. D'autres pas, qui exerçaient leur esprit critique.
Qui étaient les collaborateurs ?
Tout à chacun. C'était ceux qui pensaient que le maréchal Pétain avait bien fait de rencontrer M. Hitler et d'avoir accepté ce qu'il avait accepté. Et qui, d'une part, acceptaient la situation et en même temps aidaient à la mise en place d'une politique au quotidien de restriction. C'était normal pour cela. Et qui pensaient qu'on ne pouvait pas faire autrement aussi. Donc, qui se sont tus sur certains événements et qui ont même accompagné ou dénoncé d'autres personnes. Mais ce n'était pas forcément un groupe particulier. Il pouvait y avoir des intellectuels qui étaient d'accord avec ce que faisait M. Pétain. Si on avait vraiment conscience de tout ce qui s'était fait, eh bien, on ne pouvait pas être collaborateur.
Y en avait-il beaucoup ?
Au début, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Parce qu'on sait que beaucoup d'arrestations ont eu lieu suite à des dénonciations. Plus on arrivait vers la fin de la guerre, on a vu plus de gens revenir vers la résistance. Mais il y a eu au début beaucoup. Parce qu'il fallait avoir fait ce cheminement, d'une part, analyser la situation, la comprendre, voir que tel fait ne peut avoir que des conséquences néfastes. Et puis, dans sa tête, dire « on peut faire autrement, on peut résister ». Et on a vu des intellectuels, les poètes, Mais on a vu aussi des travailleurs dans les entreprises faire des tracts qui demandaient d'autres moyens pour vivre. On a vu des gens dans l'armée aussi. Cela avait fait le chemin qu'on pouvait vivre autrement, faire autrement. Mais les collaborateurs, au départ, étaient très nombreux.
Pourquoi les Français collaboraient-ils ? Est-ce que les Allemands les poussaient ou est-ce que c'était par leur simple pensée ?
Bon, il y a beaucoup de faits qui montrent que le chemin de la collaboration, quand on n'a pas d'état d'âme, était un chemin beaucoup plus facile que de prendre le chemin de la résistance. Parce que entrer en résistance avait des conséquences très importantes. Hein. On pouvait entrer en résistance, c'était souvent, par rapport au lieu de travail, avoir une partie, c'était quitter sa famille, quitter ses enfants, qui n'y ait plus, n'allant plus au travail, qui n'ait plus de moyens de subsistance, qui rentre à la maison. Hein. C'était avoir une vie à côté qui n'était pas une vie pour soi, mais une vie consacrée pour que le pays auquel on est attaché, la France, prenne un autre chemin. Et était beaucoup plus facile d'être collaborateur que d'être résistant.
Et comment les collaborateurs contactaient les Allemands ?
Oh, ils le faisaient peut-être pas. Il y avait des lettres de dénonciation qui arrivaient à la police allemande, qui n'étaient pas toujours signées, parce qu'on pensait se protéger un petit peu en faisant comme ça. Hein. Donc il y a eu beaucoup de lettres de dénonciation. Et puis la police française, qui était, comme on dit, à la botte de la police allemande.
Quelle était la différence entre la presse allemande et la presse contrôlée ?
Ben, la presse allemande, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup en France. Il y avait la presse française qui était censurée, qui était au service de l'Allemagne, qui était au service de la politique menée par le maréchal Pétain.